Bonjour, je suis Olivier. Bienvenue dans le podcast de 993. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Publié dans les années 1970, La Nouvelle Grille est un essai de vulgarisation scientifique et de réflexion sociale d'Henri Laborie, médecin, neurobiologiste et penseur français. L'ouvrage propose une manière de lire les conduites humaines à partir de la biologie du cerveau, de l'apprentissage et des contraintes imposées par les milieux sociaux. Son projet ne consiste pas à réduire toute expérience humaine à un réflexe, mais à déplacer le regard porté sur la liberté, la violence, la compétition et les hiérarchies. Laborie soutient que les comportements prennent sens lorsqu'on examine les possibilités réelles d'agir dont dispose un individu, ainsi que les récompenses, les menaces et les interdictions qui structurent son environnement. Il relie ainsi des mécanismes neurophysiologiques à des phénomènes collectifs, notamment l'organisation du travail et les rapports de pouvoir. Le livre relève autant de l'essai scientifique que de la critique sociale. Il invite le lecteur à adopter une grille d'analyse matérialiste, attentive au déterminisme biologique et institutionnel qui façonne les décisions humaines. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, une grille biologique pour interpréter les conduites humaines. La proposition centrale de la nouvelle grille est de considérer le comportement comme le produit d'un organisme placé dans un environnement, plutôt que comme l'expression spontanée d'une volonté entièrement souveraine. Laborie s'appuie sur ses domaines de recherche, la neurophysiologie, la pharmacologie et l'étude du stress, pour rappeler que l'être humain doit continuellement préserver son équilibre interne et répondre à des signaux de plaisir, de danger ou de contrainte. Cette perspective ne nie pas l'importance du langage, de la culture ou de l'histoire personnelle. Elle demande plutôt de les examiner à partir de leur inscription dans un système nerveux et dans des conditions matérielles d'existence. Une même conduite peut alors apparaître moins comme une faute morale ou un trait de caractère que comme une réponse apprise face à une situation donnée. Le déplacement est décisif pour Laborie, car les explications ordinaires attribuent facilement à la nature humaine ce qui relève d'une organisation sociale particulière. Sa grille cherche donc des mécanismes et des conditions, non des essences immuables. Elle privilégie l'étude des relations entre le sujet, ses marges d'action et les conséquences prévisibles de ses actes. Cette approche donne au livre sa tonalité interdisciplinaire, à la frontière de la biologie, de la psychologie et de la réflexion politique. Deuxièmement, action, récompense et inhibition comme mécanisme du comportement, Laborie accorde une place structurante aux conséquences de l'action. Lorsqu'un comportement permet d'éviter un danger, d'obtenir une ressource ou de produire un résultat favorable, il tend à être maintenu et réutilisé. À l'inverse, la difficulté apparaît lorsque l'organisme perçoit une menace sans pouvoir ni fuir, ni lutter efficacement, ni transformer la situation. Laborie désigne ce blocage comme une inhibition de l'action. Il y voit un mécanisme important pour comprendre certaines formes de stress et les effets délétères d'une impuissance durable. L'intérêt de ce cadre est de ne pas isoler les émotions de la situation concrète. La peur, l'agressivité ou le découragement ne sont pas seulement des états intérieurs à interpréter moralement. Ils peuvent être liés à l'absence de prise sur un contexte contraignant. La portée sociale de l'idée est nette, dans une institution ou dans le travail. Des individus peuvent devoir obéir à des règles, poursuivre des objectifs fixés par d'autres et subir des évaluations sans pouvoir modifier les causes de leur malaise. Le livre invite ainsi à regarder les conditions qui rendent l'action possible ou impossible. Cette analyse ne fournit pas un diagnostic clinique individuel, mais elle éclaire pourquoi une société qui multiplie les situations de contrainte peut favoriser tension, soumission ou conflit. Troisièmement, les hiérarchies sociales examinées comme système de domination. L'une des dimensions les plus distinctives de l'essai est son extension des modèles biologiques aux organisations humaines. Laborie analyse les hiérarchies non comme de simples nécessités administratives, mais comme des systèmes qui distribuent inégalement la capacité de décider, de disposer des ressources et d'orienter l'action des autres. Les positions dominantes permettent plus facilement de transformer le milieu à son avantage, tandis que les positions subordonnées exposent davantage à l'exécution, à la dépendance et à l'inhibition. Cette lecture vise notamment les rapports de pouvoir dans les institutions et les structures économiques. Elle conteste les justifications qui présentent la compétition et l'autorité comme des réalités naturelles, donc inévitables. Pour Laborie, invoquer la biologie pour légitimer un ordre social est précisément une erreur de raisonnement. Des mécanismes comportementaux existent, mais les institutions sélectionnent, renforcent ou limitent certaines conduites. L'organisation collective possède donc une responsabilité dans la production de la violence et du malaise. Le livre ne sépare pas la question politique de la connaissance scientifique. Comprendre comment les hiérarchies agissent sur les corps et les comportements devient une condition pour les discuter. Sa critique reste marquée par son époque et par des généralisations issues de modèles expérimentaux. mais elle conserve une force analytique lorsqu'elle oblige à relier pouvoir abstrait et les expériences concrètes de contraintes. Quatrièmement, la critique des explications morales et de l'individualisme, la nouvelle grille s'oppose à une lecture individualiste des problèmes humains. Laborie met en cause l'habitude de chercher, derrière l'échec, la maladie, la violence ou la soumission, une faiblesse personnelle, une intention mauvaise ou un défaut de mérite. Une telle interprétation peut rassurer parce qu'elle simplifie les responsabilités, elle fait de chaque individu l'auteur isolé de sa trajectoire. Mais elle dissimule les apprentissages, les dépendances économiques et les rapports hiérarchiques qui limitent les choix disponibles. L'auteur ne prétend pas que l'individu ne répond jamais de ses actes. Il insiste sur le fait qu'une responsabilité lucide suppose d'identifier les déterminations qui organisent le champ des actions possibles. Cette exigence a une conséquence éthique et politique, il faut évaluer les structures qui exposent certaines personnes à l'impuissance plutôt que de leur demander seulement de mieux. S'adapter. Le savoir scientifique devient alors un outil de démystification. Il peut révéler la distance entre les discours célébrant autonomie et concurrence et les situations où beaucoup n'ont guère de pouvoir sur leurs conditions de vie. La limite de cette démarche tient au risque de faire paraître les comportements trop directement déductibles de mécanismes biologiques. Toutefois, le livre cherche surtout à combattre le moralisme abstrait en ramenant l'analyse vers les contraintes observables et les effets des institutions. En dernier lieu, connaissances scientifiques et transformation des milieux sociaux, chez Laborie. Connaître les mécanismes du comportement n'a pas pour fonction de mieux manipuler les individus ou de les adapter passivement à un ordre donné. Le sens critique de sa démarche conduit au contraire à interroger la fabrication des milieux sociaux. Si la souffrance et l'agressivité peuvent être aggravées par l'absence de contrôle sur l'action, il devient pertinent de concevoir des cadres ou la coopération. L'information et la participation réduisent cette impuissance. Cette orientation distingue l'ouvrage d'un simple traité de neurosciences. Les notions biologiques y servent à penser les conséquences humaines de l'école, du travail, de l'autorité et des normes collectives. Laborie accorde aussi une valeur importante à la diffusion du savoir. Car une population qui ignore les déterminismes auxquels elle est soumise peut plus difficilement les reconnaître et les modifier. Le projet demeure exigeant, il ne promet pas une libération individuelle immédiate, mais défend une transformation des relations et des institutions à partir d'une meilleure compréhension de leurs effets. Cette ambition explique l'influence durable de l'auteur dans certains débats français sur la complexité, l'éthologie humaine et la critique sociale. Elle impose également une lecture prudente. Les analogies entre expériences biologiques et société humaine ne suffisent jamais à établir une loi politique. Leur intérêt est de susciter des questions concrètes sur les conditions de l'autonomie plutôt que de fournir un programme social automatique. En conclusion, la nouvelle grille s'adresse aux lecteurs intéressés par les croisements entre sciences du vivant, psychologie du comportement et critique des rapports sociaux. Il peut être particulièrement utile aux étudiants et aux praticiens des sciences humaines, de l'éducation, du soin ou du travail social. À condition de le lire comme un essai de synthèse et de discussion plutôt que comme un manuel scientifique actualisé. Son apport intellectuel majeur est de rendre difficile une explication purement morale des conduites. Laborie conduit le lecteur à demander quelles contraintes, quelles récompenses et quelles possibilités effectives d'action composent une situation avant de juger les personnes qui s'y trouvent. Cette démarche offre un instrument d'analyse pertinent pour réfléchir au stress, à la subordination et aux effets des hiérarchies. L'ouvrage se distingue des livres de vulgarisation centrés exclusivement sur le cerveau, car il ne traite pas la biologie comme une explication close sur l'individu. Il relie les mécanismes physiologiques à l'économie des relations de pouvoir et à la construction des institutions. Il se distingue aussi des essais politiques plus abstraits par son attention aux conditions corporelles et comportementales de la domination. Certaines formulations portent la marque des débats scientifiques et sociaux de son temps. Et les passages généralisant des résultats expérimentaux aux sociétés humaines appellent une distance critique. Mais cette tension fait aussi l'intérêt du livre, il propose une pensée ambitieuse des liens entre organismes, environnement et organisation collective, sans réduire l'analyse sociale à un discours de principe. Si vous souhaitez soutenir Henri Laborie, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.